Europe 1. Europe 1, 10h-11h, Mediapolis. Olivier Duhamel.
Bonjour à tous, et oui, c'est samedi, c'est donc Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politiques, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Paul Lassène. Avec nous, Romain Goupil, officiellement cinéaste, mais de plus en plus chroniqueur, polémiste, macronien, mais de gauche, mais Macron. Et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, l'hebdomadaire qui monte, parce que l'hebdomadaire à droite, très à droite. Et c'est la première fois que l'un et l'autre nous font le plaisir de venir à Mediapolis. Ça va chauffer, je vais pouvoir rester calme en attendant Canteloup.
Une quinzaine de députés de différents bords politiques vont déposer une proposition de loi favorable à la dépénalisation du cannabis à usage récréatif. Pour en parler, nous sommes avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Aliaga. Et bonjour à tous vos sympathiques subalternes.
Bonjour.
Il n'y aura pas, Madame Leclerc, de débat. Je suis contre la légalisation du cannabis. La drogue, c'est mal. Cela fait des ravages, nous le savons tous. Addiction, problème de santé, album de Yannick Noah, c'est terrible.
D'accord, bon. En tout cas, les dépositaires de ce projet de loi proposent un monopole de l'État sur les graines, la production et la vente, ce qui rapporterait plus d'1,8 milliard d'euros.
Vous rendez Pardon compte vous avez dit combien? Ça rapporterait combien?
1,8 milliard d'euros.
Pas mal. Ah oui. Oui. En même temps, vous savez... J'aime beaucoup Yannick Noah. Et puis, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai l'âme d'un rebelle. Il ne faut pas être, je crois, dans la vie dogmatique. Monsieur Aliaga, oui. Auriez-vous un joint à me dépanner?
Désolé, je n'en consomme pas.
Oui, mais vous connaissez du monde qui en consomme. Il ne faut pas mourir idiot, je crois. Ah, voilà, merci. Merci, Madame Dacosta. Alors, bon, voilà, il y en a... Oui, il vient de faire son coming out. Ah voilà, de façon détournée indirecte. Il y a un qui est tombé de votre poche, monsieur Apathy, je ne m'y attendais pas. Attendez, à mon avis, c'est de l'afghane, non? C'est ça? Vous sentez l'odeur, ça? Ça sent le pognon. Dans ce joint, vous savez ce qu'il y a? Il y a tout de même 70% de taxes pour l'État. C'est, oh la vache, c'est de la bonne. Je ne l'ai même pas allumé, je plane déjà.
Oui, allez, oui, vous n'en faites pas trop, hein, s'il vous
Mes
plaît.
Mes comptes sont dans le vert.
Merci, monsieur le maire.
C'était donc Nicolas Canteloup avant-hier matin sur Europe 1. Alors, je vais commencer par le plus facile des paris. Je parie que Romain Goupil est favorable à la légalisation du cannabis et que Geoffroy Lejeune est hostile à la légalisation du cannabis. J'ai gagné?
Oui, bien, je vais gagner.
Pourquoi? Alors, je pose ma question autrement. Ouais. Avant, vous allez nous donner vos arguments, mais je pose ma question autrement. Comment vous expliquez que dans des temps où s'estompe le clivage droite-gauche, ou d'autres clivages viennent prendre plus d'importance, il y a à peu près systématiquement les gens de droite contre la légalisation et les gens de gauche, ou vraiment de gauche, ou en tout cas ceux qui sont pour la légalisation, sont de gauche.
C'est moi qui réponds en premier.
Bah oui, allez-y.
Alors, eh ben écoutez, parce qu'en fait, je crois, enfin, on a substitué au clivage droite-gauche le clivage progressiste-conservateur, et Romain Goupil est progressiste et moi je suis conservateur, et finalement il est assez opérant aussi. Donc sur tous ces sujets-là, je reconnais que en fait l'opposition est la même en fait en réalité. Et moi j'ai réfléchi avant de venir ici puisque j'étais opposé.
Ça, c'est bien, c'est une bonne idée de réfléchir avant de venir ici.
Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un peu un marronnier presque la légalisation du cannabis, et j'ai toujours été contre. Et puis je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi t'es contre en fait? Donc du coup j'ai quand même lu les arguments des gens qui étaient pour, et à la fin je crois que c'est mon opposition globale au progressisme qui fait que je suis contre.
Parce qu'avant vous étiez contre mais sans savoir pourquoi, c'est ça?
Non, c'est pas ça, c'est que j'entendais des arguments qui me convainquaient pas, et je suis plutôt contre même la consommation du cannabis. Donc voilà, j'étais pas convaincu, et en fait j'ai réfléchi à la fin, ce sont les arguments, comment dire, de il faut avancer, et les arguments, moi je trouve les arguments un peu bébêtes en fait pour la légalisation du cannabis, donc je me sens contre, et je crois que c'est mon côté conservateur.
Alors on va voir si Romain Goupil est un peu bébête.
Pour le coup, effectivement, l'argument, il est vraiment réactionnaire. Il n'est pas du tout à hauteur du débat actuel. C'est vrai que la droite, classiquement, en disant on perd le contrôle, et surtout on perd le contrôle sur vous. C'est-à-dire si un maître, un politique, si un flic vous adresse la parole et que vous avez fumé, vous êtes en train de le regarder en rigolant et tout. C'est-à-dire une espèce de perte d'autorité et du fait qu'on plane. C'est quelque chose qui est inacceptable d'un point de vue conservateur, c'est-à-dire de dire il faut que les gens soient responsables d'eux et qu'ils puissent obéir et qu'on puisse leur donner des ordres. Mais c'est pas du tout ça le débat.
C'est plutôt le fait que l'État le tolère en fait en réalité.
Oui, il y a quelque chose de très réactionnaire et conservateur. Mais le débat c'est pas du tout ça. C'est à ce moment que tu m'expliques ou que vous m'expliquiez
je vous vois plutôt sur les antennes si c'est possible.
On peut faire la différence d'un point de vue libéral, d'un point de vue de la réflexion entre l'alcool, si demain ou si maintenant ou si quand je sors, je rentre dans un Super U et je m'achète 10 bouteilles de vodka, rien ni personne m'empêche. Les lois sont faites pour que je ne prenne pas le volant. Je ne tape personne, je ne balance pas mes bouteilles contre, je ne sais pas, contre un passant et tout. Il y a des lois qui font que tu peux... C'est une histoire de liberté. Ta liberté à toi fait que tu pourrais acheter le meilleur produit dans des pharmacies ou dans des tabacs, qui fait qu'après, tu es responsable. C'est ça qui fait la vraie différence. Ben ouais. Et là où vous êtes, vous, réactionnaire, mais en plus... daté, c'est-à-dire que c'est des arguments effectivement tu disais c'est pas réflexe, c'est des arguments réflexes qui datent d'avant. D'un point de vue, plus on avance, plus on est responsable, plus tu es conscient, plus tu es capable de dire, et là la différence avec Olivier, c'est que moi le cannabis, non seulement je suis pour, mais absolument pour, en disant ça devrait être bien sûr l'État qui va, mais moi je suis pour l'héroïne et la cocaïne, bien sûr, en fonction du même, exactement de la même analyse.
Mais c'est pas...
c'est possible de prendre de la coke, d'aller acheter de la coke de bonne qualité, et tu, après, t'es responsable de l'usage de ce truc-là.
Mais en fait, c'est pas du tout daté comme opposition, pardonnez-moi, c'est pas du tout des arguments périmés. Au contraire, vous, l'argument que vous donnez, il est très vieux aussi, et pourtant, vous l'utilisez encore aujourd'hui, c'est l'argument, en gros, de la liberté individuelle à l'infini. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui doit pouvoir s'opposer au choix individuel de quelqu'un de consommer de la drogue, etc., de potentiellement se faire du mal. Enfin, en cela, vous êtes cohérent. Bah, moi, je suis cohérent dans l'autre sens, c'est-à-dire que je considère... Moi, je voudrais vivre dans un pays... dans une société où l'État ne tolère pas, ne permet pas que la drogue, qui doit rester un truc illégal, qui doit rester un truc de contournement, soit permis. Voilà.
Donc, et il y a quelqu'un qui est entre vous deux, le gouvernement.
La position du gouvernement n'est pas d'aller vers une légalisation du cannabis. Après, il peut y avoir des réflexions sur le sujet thérapeutique, mais ça, c'est des réflexions, je vous renverrai plutôt vers ma collègue Agnès Buzyn, mais dans un cadre qui soit un cadre parfaitement défini à vocation thérapeutique. Mais l'usage du cannabis à vocation récréative ne fait pas partie aujourd'hui des projets du gouvernement.
Point presse à la suite du Conseil des ministres de mercredi par Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. À usage thérapeutique, c'est concevable pour vous
C'est marrant parce que ça fait partie des questions que je me suis posées cette semaine. Il paraît que ça peut faire des miracles dans certains cas, etc.
C'est vachement bien pour vous de venir à Mediapolis parce que vous posez plein de questions.
Bah ouais, merci, je vous
remercie. Et alors
Non, mais parce que
la réponse, j'ai entendu parler la question.
J'ai entendu parler de cas miraculeux où le cannabis avait fait. C'est un médecin qui m'a expliqué ça, qui avait fait des choses que la médecine pouvait pas faire. En fait, ça me dérangerait beaucoup moins dans la mesure où en fait c'est encadré. En fait, c'est de la médecine, donc c'est pas la société qui tout à coup dit vous avez le droit de tout faire parce que la liberté c'est ça. Et ça, mais en fait, cette opposition, elle existe, pardon, au moins depuis 68. C'est pas un truc daté du tout, c'est un débat qui est vraiment profondément actuel. Vous êtes dans le camp de la liberté individuelle, moi, je suis dans le camp des règles, en fait. C'est ça, l'opposition, droite-gauche, progressiste-conservateur, on dit ce que, comme on veut.
C'est exactement ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'ordre, il y a besoin de les faire respecter, ça, contre la liberté individuelle, de pouvoir, dans le cadre tout à fait légal, qui je ne tape personne, je ne crée pas d'accident, je me plie aux règles qui sont les règles du droit, mais que je peux me défoncer si j'en ai envie, de même que je peux me suicider si j'en ai envie.
Premier débat franc entre nos invités, celui qui défend la liberté le plus possible, même si ça gêne l'ordre, celui qui défend l'ordre qui doit arrêter la liberté.
La contrainte, la norme, toutes ces choses dont on ne veut plus aujourd'hui.
C'est parfait, c'est clair. On va voir ce qu'il en est sur un autre sujet. La naturalisation dans quelques instants.
De 10h à 11h le samedi sur Europe 1, on vous retrouve, Olivier Duhamel avec Mediapolis. Et aujourd'hui, vous recevez Romain Goupil, cinéaste et chroniqueur, et Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Absolument. Et Paul Lassen, qui prépare l'émission avec moi, a repéré une image qui a fait grand bruit le week-end dernier lors de la finale du championnat de France de rugby. Traditionnellement, le président de la République serre la main des joueurs avant le début de la rencontre. Et samedi dernier, le Sud-Africain de Toulouse, Max Van Dijk, a fait une demande un peu particulière à Emmanuel Macron. Très gonflé quand même, et ce qui a fait beaucoup réagir le monde politique, c'est la réaction du président. Un simple banco pour autoriser la naturalisation d'un étranger. Alors ça, j'imagine que ça vous a choqué, Geoffroy Lejeune.
Non, ça m'a pas choqué. Moi, ce qui m'a
comment
qui
ça
m'a...
non.
Le seul truc
qui ça normal qu'on dise banco comme ça.
Je sais ce que j'allais dire. La seule chose qui me dérange, c'est le côté banco. Il le connaît pas. Il est pas du tout au courant de ses états entre guillemets de service. Et il dit banco tout de suite comme si c'était voilà facile, automatique, etc. etc. C'est ce petit côté un peu facilité. Après, moi, les naturalisations, je veux dire, je suis pour. Il faut qu'on puisse selon plein de critères. C'est en fait, il faut que le pays puisse décider qui choisit d'accueillir dans la communauté nationale, comme on dit. Mais voilà, le seul truc qui m'a dérangé dans cette affaire, c'est le banco un peu facile d'Emmanuel Macron qui donne l'impression que ça peut se brader facilement.
Et vous,
Romain Goupil ? Moi aussi, je trouve que la naturalisation correspond, il y a toute une série de textes, un temps pour examiner différentes situations. Mmh. C'est quelque chose qui dit droit et devoir à partir du moment où tu demandes, c'est une demande à faire, et que là, ça soit en direct et accordé, ça fait passe-droit qui est très désagréable par rapport à tous les dossiers en attente. Alors les mecs disent, alors il faut que je sois connu, que je passe à la télé ou que je fasse un acte qui fait que je peux... j'étais aussi mal à l'aise. Je trouve très rigolo que lui demande et après, qu'il dit, OK, on verra avec les services ou voyez avec les services.
C'est aussi là les pièges de la média politique telle qu'elle fonctionne. Exactement. C'est-à-dire qu'on vous chope en train de dire un truc pareil, il n'est pas naturalisé. Hein. Le dossier est à l'étude, etc. Ouais. Bon, c'est juste le président de la République, qu'il a vu. Son banco voulait pas dire je te la donne. Son banco voulait dire on va regarder. Et nous, on la réinterprète comme je te la donne et on en fait toute une salade.
Moi, je me sens au début du quinquennat, Macron avait été, je crois qu'il était allé à Emmaüs ou quelque. Il avait fait un déplacement un peu de ce genre caritatif et il avait été interpellé par une dame qui était marocaine et qui lui dit voilà, je voudrais devenir française. Et Macron avait répondu je suis désolé, mais en fait, je peux pas me permettre de naturaliser tout le monde. Il y a des règles, etc. Donc maintenant, vous allez soit rentrer dans votre pays, soit vous faites des demandes en bonne et due forme. Et si elles sont refusées, faudra repartir. Et j'avais adoré qu'un président de la République disent en fait les règles à des étrangers qui voulaient devenir français. Et c'était courageux parce qu'il faut le faire devant les caméras. C'était devant les caméras, cette histoire.
C'est ça qui est intéressant, c'est que nos invités ont des convictions très fortes, mais ils ont aussi de la bonne foi. Et donc, vous voyez, le jeune est capable de dire qu'il était pleinement content d'entendre Macron dire qu'il y a des règles. Et Romain Goupil a pu dire qu'il était d'accord avec Geoffroy Lejeune sur le fait qu'on ne dit pas banco comme ça.
On voit pas l'image là, parce que on est entre nous dans le studio.
Ça veut dire que je dis qu'il est d'accord, il va faire marche arrière.
Non, pas du tout. C'est simplement peut-être expliquer le banco par la carrure qu'a le pilier de l'équipe de rugby, et puis Macron qui dit oui, d'accord, banco, et puis hop,
il
passe.
Peut-être qu'il avait peur de se faire...
Peut-être, pour dire un banco à toute vitesse et passer au suivant. J'ai pas aimé, oui, effectivement, qu'il y ait un passe-droit, qu'on laisse entendre que...
Rassurez-vous, il y a beaucoup de naturalisation, hein, c'est quand même assez peu refusé en règle générale.
Oui.
Puis, trop de naturalisation.
Ouais, je pense, en fait, c'est un moyen de donner l'impression, pour les gouvernements successifs, honnêtement, c'est pas juste le problème de Macron, c'était le cas de Manuel Valls, donner l'impression qu'on a une politique répressive en matière d'immigration. En réalité, on naturalise pour que ça devienne légal, c'est comment dire une sorte un petit contournement quoi. Donc oui, il y en a sans doute trop.
Non, mais il y en a tout le contraire. Il y en a pas assez parce que c'est il y a des règles. Il y a un temps, il y a un examen sur savoir à peu près parler la langue, sur l'habitation, sur la ressource. Il y a plein, vraiment énormément d'examens qui sont faits pour la naturalisation. Mais la naturalisation est un excellent moyen pour intégrer. Alors là, si on dit qu'il faut intégrer, le fait de reconnaître, de parrainer et de dire vous êtes français maintenant, vous répondez aux lois françaises, n'aimez pas à côté du pays, n'aimez pas à côté de tous les efforts qu'ils font. Et souvent, très souvent, les gens qui font une demande de naturalisation, c'est vraiment pour être français. Ils choisissent, ils connaissent d'autres pays, ils connaissent d'autres situations et c'est pas du tout de l'ordre du passe-droit.
Derrière le débat sur la naturalisation, évidemment, vient le débat sur l'immigration. Avec notamment cette question, est-ce que ça va devenir le débat politique prédominant en France ? Réponse dans quelques instants.
Le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune, et le chroniqueur et cinéaste Romain Goupil sont vos invités ce matin, Olivier Duhamel, dans Mediapolis.
Et contrairement aux habitudes, nous allons entendre l'extrait d'un de propos d'un de nos deux invités, et demander ensuite à l'autre de réagir. C'était lundi dernier sur LCI et c'était Geoffroy Lejeune. Écoutez.
Ça s'appelle la remigration. Et je pense qu'en effet, il y a des gens qui sont français aujourd'hui qui devraient retourner dans leur pays d'origine parce qu'ils ne partagent pas les valeurs et la culture française. Est-ce qu'aujourd'hui, un pays a le droit de décider qui rentre sur son sol ou pas? Il y a des gens. Il y a des gens très radicaux, les no-borders, etc., qui considèrent que non, que c'est un scandale. Il y a des gens plus intelligents, plus mesurés, etc., comme vous, qui considérez que, dans l'absolu, non, le devoir d'accueillir est plus important. Et il y a des gens comme moi, mais je pense que il y a beaucoup de Français qui pensent comme moi, je pense même qu'ils sont majoritaires, qui considèrent que oui, c'est le droit élémentaire d'un pays.
Je pense qu'il y a des gens qui sont Français qui doivent retourner dans le pays d'origine, Romain Goupil. Ça devrait vous faire bondir, ça, quand même.
Non, mais je connais les positions et je connais l'argumentation de Geoffroy pour l'avoir entendu ou lu. C'est une erreur sur tout. C'est prendre le truc tout à fait à l'inverse. Il mélange, pour des très mauvaises raisons, par démagogie pure, tout ce qui est un devoir international et qui poids de l'ordre de la générosité. C'est les lois telles que la Déclaration des droits de l'homme qui fait qu'un pays où il y a un drame, une guerre, de la torture, des gens qui sont assassinés, peuvent demander. Non. Justement, ça n'a rien à voir. Il laisse entendre que tous les immigrés, tous les réfugiés, ça serait la même chose. C'est un devoir, le droit d'asile.
C'est pas du tout le sujet. Honnêtement, je vous promets, dans cet extrait, puisqu'on ne peut pas tout passer, mais j'ai parlé du droit d'asile en disant que moi, je suis fondamentalement pour. J'ai même dit...
Non, mais je suis absolument d'accord. C'est pas le droit d'asile dont il s'agit.
Bien sûr, mais
d'une certaine manière, excusez-moi, vous pourriez dire... ça. Vous avez l'air de ne pas être plus heurté que ça. C'est quand même très, très rare d'entendre quelqu'un prendre comme position publique le fait que des gens qui ont la nationalité française la perdent et soient renvoyés chez eux. Quoi. On n'a pas connu ça depuis Vichy, excusez-moi.
Non, il y a François Hollande aussi.
François Hollande n'a enlevé la nationalité française à personne.
Il a proposé la déchéance de nationalité. Moi, je suis
pas proposé la remigration. Hein. Il avait proposé, à tort ou à raison, mais ça n'a quand même aucun rapport, une déchéance de nationalité pour des terroristes. Il n'a pas proposé la remigration. Donc, Romain Goupil, vous nous parlez du droit d'asile.
Parce que j'ai absolument même pas ça. Là, vous voyez bien que j'ai pris en défaut de réaction, puisque c'est même pas arrivé à mon cerveau que c'était ça, moi. J'étais sûr dans la discussion, quand j'ai entendu remigration, que c'était de dire ceux qui n'ont pas le droit d'être sur le territoire.
Il dit des gens qui sont français.
Olivier, je viens de comprendre l'énormité du propos. Tout à fait honnêtement, j'étais en train de discuter en disant ils font un amalgame sur réfugiés et immigrés et ils veulent simplement foutre tout le monde dehors. Ce qui est une erreur, une imbécilité et tout. Mais remigration, effectivement, je viens de comprendre, puisque je sais que Zemmour est en train de bosser là-dessus avec Patrick Buisson sur la nouvelle plateforme pour appeler une nouvelle organisation d'extrême droite parallèlement ou avec le Rassemblement National sur la remigration. Mais je ne pensais pas que vous étiez sur ces positions-là. Ça vient de faire tilt à l'instant. J'étais simplement, je croyais que c'était les trucs classiques sur il y a trop d'immigrants dans ce pays, des migrants qui ne devraient pas être là, l'immigration économique qu'on ne doit pas tolérer, les trucs classiques. Donc moi, je m'étais mis effectivement un espèce de pilotage automatique en disant Geoffroy Lejeune dit des bêtises, je vais répondre sur ce que je pense, juste notamment sur les régularisations. On a parlé des naturalisations, mais moi, je suis pour qu'il y ait des régularisations automatique pour ne pas laisser pour ne pas laisser 100 000 ou 150 000 personnes hors tout le droit. C'est-à-dire que je suis sur la position de Pasqua qui disait de bonne police, de bonne intelligence, de bon gouvernement, si vous régularisez les gens, ils sont droits et devoirs. Et il n'y aura aucun gauchiste, aucun goupil qui ira protester parce qu'un mec s'est mis proxénète, s'est mis vendeur de drogue et tout, parce qu'il a un papier.
Comment est-ce que vous... Si je comprends bien, vous allez beaucoup, beaucoup plus loin que tout ça. Vous dites qu'il faut privés de leur nationalité un certain nombre d'immigrés
qui ont déjà été naturalisés. C'est ça l'idée.
Des gens qui sont français. Je pense qu'il y a des gens qui sont français et qui doivent retourner dans leur pays d'origine.
Mais en fait, je vais vous le redire, mais Romain Goupil dit dénaturaliser, c'est pas une question de naturalisation, c'est une question, c'est moi je me pose la question sur le terrain politique et sur le terrain culturel surtout. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je considère que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, avec l'immigration qu'on vit, etc., la carte d'identité ne suffit pas à justifier de la nationalité française. Enfin, techniquement, oui, évidemment, mais dans l'absolu, ne fait pas un Français. C'est-à-dire qu'on a donné, on a parlé de naturalisation tout à l'heure, on a donné la nationalité française à des gens qui ne partagent pas l'essentiel des valeurs et de la culture française.
Donc, vous pensez qu'il faut la leur enlever ?
Bah, en fait, c'est marrant parce que quand j'ai dit ça sur LCI lundi, je ne m'étais pas posé la question, ce n'était pas mon débat, je débattais avec Gérard Miller, ce n'était pas l'objet du débat. J'ai dit ce que je pensais, et je viens de vous le redire, je pensais exactement ça, puis après je me suis posé la question pendant la semaine, je me suis dit, mais comment concrètement ça se traduit ? Parce que évidemment, je n'ai pas envie de décider, moi, par ailleurs je ne suis pas de politique, mais je serais mal à l'aise quand quelqu'un devra décider qui reste français, qui ne reste pas français. Et je me suis souvenu d'une discussion il y a quelques mois avec Malek Bouti, qui n'est plus député aujourd'hui, et qui m'a reparlé, lui, de la séquence François Hollande d'échéance de nationalité. À l'époque, m'a-t-il dit, puisque je vous donne une petite information, ça n'est pas sorti, il était allé voir François Hollande en disant c'est une connerie, ça va régler aucun problème, ça concerne trop peu de gens, c'est juste pour les djihadistes. Le vrai sujet, c'est la double allégeance des gens qui ont une double nationalité. Moi, je considère aujourd'hui que le problème, il est posé essentiellement par l'immigration des 30 dernières années. Et en fait, la plupart d'entre eux sont franco quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, lui avait proposé à Hollande, il avait dit à Hollande, il faudrait que tu supprimes la double nationalité. Et je pense que c'est une bonne idée, en fait. Je pense que c'est une bonne idée.
Ah,
je pense
que... de supprimer la naturalisation de Manuel Valls et puis de refoutre dehors Dany Cobendit, puisqu'il
c'est
est
pas franco, une question d'Annie Cobendit.
Attendez, vous répondez, parce que on est au cœur quand même de la question, vous répondez dans quelques instants.
Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel. Olivier qui est entouré ce samedi par Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et par Romain Goupil, cinéaste et chroniqueur.
Alors je récapitule. Lundi, Geoffroy Lejeune propose la remigration et que des gens qui sont français aujourd'hui retournent dans leur pays d'origine. Mardi, il confirme qu'il va venir samedi à Mediapolis et il se dit, bon, comment est-ce qu'on fait cette remigration que j'ai proposée ? Samedi, tout à l'heure, juste avant la pause, il dit, j'ai réfléchi, je me suis rappelé un entretien avec Malek Bouti et qui prônait le fait qu'on supprime la double nationalité. Donc voilà, je vais atterrir avec supprimons la double nationalité. Et puis, Romain Goupil lui dit, donc, vous enlevez la nationalité française à Dany Cohn-Bendit et Manuel Valls. Réponse ?
Non.
Seulement pour les Arabes ?
Non, c'est pas seulement pour les Arabes. C'est, en fait, je vais prendre le truc différemment de votre présentation. C'est que moi, je fais pas de politique, je réfléchis pas à des solutions concrètes, j'ai pas de programme, si vous voulez. Je me pose des questions et en fait, cette réflexion-là est venue parce qu'on avait un débat avec Gérard Miller sur LCI, comme tous les lundis, au sujet de l'immigration et moi je lui réponds, je dis vraiment mais c'est un vrai débat et d'ailleurs Romain Goupil a pas répondu là-dessus, est-ce que la carte d'identité suffit à faire un Français ? Moi je dis que non et d'autres disent que oui et donc je me pose cette question-là et moi ce qui m'obsède la vraie question si vous voulez c'est je peux pas entendre parler en permanence, lire des enquêtes en faire même parfois sur les territoires perdus de la République, sur les endroits où la population fait sécession et je parle d'une sécession culturelle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits en France où on n'est plus en France et dire on n'y peut rien, ils ont la carte d'identité. Voilà, c'est ça ma réflexion. Maintenant, j'ai pas le projet de chercher des embrouilles à Dany Cohn-Bendit. Moi, j'ai aucun problème avec lui. D'ailleurs, c'est plutôt lui qui en a un avec moi, puisque quand je lui propose de débattre, il veut pas.
Oui, on voit très bien que c'est des idées qui sont comme ça, soi-disant innocemment mises sur le tapis. Mais si on fait de la politique et qu'on dit sur cette analyse-là, qu'est-ce que tu mets en place ? Tu mets en place un ministère de la désintégration, c'est même plus un ministère de l'identité nationale, contre ou pour une identité nationale pure, absolument pure, on examinerait quels sont les Français bien, les Français de souche, les Français qui correspondent à l'idée que se fait Geoffroy Lejeune ou je ne sais qui dans ce ministère à la con, qui dirait qui est Français. Ceux qui sont Français, c'est ceux qui habitent et qui vivent dans ce pays et qui vont contribuer à ce qui fonctionne ou dysfonctionne. C'est le problème de la démocratie. Et vous agitez un concept absolument épouvantable pour continuer à faire peur, pour déclencher cette espèce de haine et ces sécessions et cette fragmentation qu'est l'idée du grand remplacement culturel. Mais alors vous avez, laissé tomber, ou peut-être même pas vous, le grand remplacement, c'est-à-dire que petit à petit, il ne va plus y avoir de Français, ce qui ne veut rien dire, mais admettons, vous dites maintenant, on est tous mal à l'aise par rapport aux coutumes, au fait qu'il y a des territoires perdus, au fait qu'il y ait le foulard, au fait qu'il y ait des mosquées, qu'il y ait des minarets. C'est pas notre culture, c'est pas nous, et l'Europe est chrétienne, et donc du coup, cette espèce de haine, et cette espèce
de...
Non, mais la haine qu'il y a de qui ne serait pas français, cette espèce de recherche absolue, d'une pureté absolue, c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans l'histoire. C'est ce qu'il y a de plus dangereux, ce qui a amené les pires catastrophes.
Non, mais c'est le problème, c'est qu'en fait, voilà, on ne peut pas débattre de ça, parce qu'à la fin, on nous parle de pureté et de choses très dangereuses. C'est pas très dangereux. Vous avez décrit exactement ce qui, moi, me fait peur et ce qui, moi, me gêne. C'est en effet les territoires perdus, le voile partout, etc. Hier, je me suis promené en voiture dans le 9-3, dans des villes aussi sympathiques qu'Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis, où on a tous évidemment très envie d'habiter. Pardonnez-moi, en fait, quand vous ne voyez que des voiles, vous ne vous dites pas qu'il y a un problème quand même, Romain Goupil, fondamentalement. Est-ce que le voile, c'est la culture française? Non. Donc, on est obligé de se poser ces questions. Et s'il y a autant d'endroits où on vit comme au bled, ça veut dire que peut-être ces gens-là seraient beaucoup plus heureux au bled. Je ne veux pas agiter une idée de pureté, une idée dangereuse. Et je suis évidemment conscient, si vous voulez, des problèmes que ça a posé dans l'histoire. Ça n'est pas la même chose. C'est juste une question de pouvoir faire perdurer un mode de vie, en fait. Le mode de vie, entre guillemets, français, voilà. J'ai pas spécialement envie de le définir, je pense que c'est évident pour tout le monde en fait, c'est comment on vivait il y a 50 ans en France.
Ouais. Alors par-delà ce débat, il y a derrière toute la question de l'avenir de la droite et de l'extrême droite dans notre pays, et sur quelle base est-ce qu'elle peut espérer l'une ou l'autre conquérir ou reconquérir le pouvoir. On y vient dans quelques minutes.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, mais avec également le cinéaste et chroniqueur Romain Goupil et le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune.
Et nous sommes le 22 juin et depuis novembre-décembre, je vous tiens régulièrement, juste brièvement, au courant de la couverture des Gilets jaunes par nos chaînes info. Alors là, je viens de voir, les manifestants demandent la démission du ministre de l'Intérieur. Oui, en Géorgie. C'est la première fois que, pendant toute l'heure, je n'aurais pas vu la mention Gilets jaunes sur aucune de toutes les chaînes info. C'est donc un grand jour dans l'histoire de ce pays dont je voulais vous faire part. Par ailleurs... et pourquoi ça? Parce que c'est occupé. D'abord parce que le mouvement vraiment devient rikiki, et d'autre part parce que vous avez la canicule à Paris, vous avez l'annonce du livre de Sarkozy, et vous avez bien sûr le sommet de la pipolitique, les petits déplacements de Brigitte Macron que exceptionnellement nous vous épargnons dans Mediapolis cette semaine. Au lieu de quoi, derrière le débat qu'on vient d'entendre entre Romain Goupil et Geoffroy Lejeune sur l'immigration, se pose la question de la stratégie politique et de la droite de gouvernement et de l'extrême droite. Pour la droite de gouvernement, on sait qu'elle va très probablement élire comme président Christian Jacob, dont j'ai entendu dire que, par un ou deux responsables des Républicains, qu'il fallait absolument le choisir parce qu'il n'a aucun avenir. Est-ce que c'est pas grave qu'un parti politique en arrive à ce stade ?
Si, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est. On assiste en ce moment, certains s'en désolent et certains s'en réjouissent, mais on assiste en ce moment à la fin de ce parti qui a quand même dirigé en alternance la France pendant 50 ans. Et donc on bascule dans un autre monde, et moi je ne sais pas ce que ça va donner.
D'accord avec ça, Romain Goupil ?
Oui, mais même c'est absolument invraisemblable la déclaration de Jacob disant je le suis le mieux à même de diriger le parti parce que je suis le plus petit dénominateur commun, donc je suis le plus minus, le plus petit, le plus lilliputien, et donc c'est moi qui peux être à la tête de ce parti. Mais c'est un aveu terrifiant des erreurs qu'ils ont fait pendant la campagne européenne.
Qu'ils ont fait, et alors du coup il y a on retourne vers l'extrême droite, où il y a deux stratégies différentes. Celle de Marion Maréchal Le Pen, pour le dire vite, qui est l'union des droites, et il faut en profiter. Et puis en face, celle de Buisson-Zemmour, qui consiste à dire c'est plus jouable. Ça, c'était bon quand le rapport de force était 3-1 en faveur de la droite de gouvernement. Maintenant qu'il est inversé, ça n'a plus de sens et il faut l'union des populistes. Et vous, vous êtes plutôt sur cette ligne, Geoffroy Lejeune, si je ne me trompe pas.
Je ne sais pas trop sur les questions stratégiques, ce que je pense. Enfin, d'accord. Je veux dire, honnêtement, vous ne faites pas appel à mes convictions, mais à des notions d'analyse. Ouais. Je ne sais pas.
Par exemple, vous pensez qu'une candidature Zemmour pour tous les populistes, c'est du délire intégral ou
figurez-vous que j'ai un peu travaillé sur le sujet également.
Oui, vous avez travaillé, vous aviez même écrit un roman, ouais, je crois, dans lequel vous annonciez Vous faisiez le scénario de l'élection de Zemmour à la présidence de la République.
Ce qui est intéressant,
et maintenant,
c'est...
Que, quelques années après, il y a Patrick Bisson qui se dit « Mais il a peut-être raison, ce petit Lejeune. »
Pour être honnête, il avait déjà eu l'idée à l'époque. Hein. C'est comme ça. Moi, j'avais en fait appris qu'il avait essayé de pousser Zemmour à être candidat. C'était en 2015. Et j'avais dit « C'est rigolo, je vais raconter cette histoire dans un livre. Oui. » Et en fait, je pense que c'est pas incompatible, l'union des droites et l'union des populistes. C'est-à-dire que moi, dans mon bouquin, je mettais en gros l'exercice, ce qui était amusant, c'était d'imaginer dans quelles conditions ça pourrait marcher. Donc à la fin, c'était en fait un peu les deux à la fois. C'est-à-dire qu'il faisait l'union dans mon scénario. Hein. Pour que ça marche, il fallait qu'il fasse en gros l'union des droites au début, c'est-à-dire qu'il récupère Dupont-Aignan pour commencer, ensuite qu'il récupère quelques personnalités de droite, quelques personnalités du FN, et qu'après se mette en place une boule de neige qui à la fin faisait que des électeurs de Mélenchon dans un second tour votaient plutôt pour lui que pour François Hollande dans mon scénario à moi. Donc vous voyez, c'est les deux en fait sont compatibles.
Et Romain Goupil, vous pensez aussi que c'est impossible parce que justement cette question de l'immigration fera toujours une barrière infranchissable ou que à terme, alors qu'il y a eu un ou deux passages de communistes ou de gens de la France insoumise au Front National, ça pourrait s'étendre.
Je pense que s'il y a une opération Marion Maréchal Le Pen, s'il y a une opération Patrick Bisson et Zemmour qui sont en train de réfléchir à une plateforme, c'est parce qu'ils analysent qu'il y a un plafond de verre, quelque chose d'impossible avec Marine Le Pen. C'est pour ça que la ligne de Marion Maréchal, c'était de dire qui est plus identitaire, plus conservatrice, de dire « Abat Philippot au Congrès ». Elle a eu la peau de Philippot. Je suis pour que rentre au Front National ou au Rassemblement National Mariani et Garot. Elle a gagné sur ces positions-là, mais au prix de son élimination. C'est-à-dire que Marine Le Pen, en très grande stratège, prend les bonnes idées, élimine pour essayer de casser ce plafond de verre.
Qu'est-ce que vous avez dit, j'ai pas entendu.
Quand Romain a dit Marine Le Pen en très grande stratège, je croyais que c'était ironique, en fait, j'ai rigolé, mais c'est pas du tout.
Non, c'est pas ironique, elle est en train...
Non, mais l'analyste, de temps en temps, peut, quel que soit c'est répugnant de constater des talents.
Ouais, non, mais alors pour le coup, moi je suis pas d'accord sur le fait que c'est une très grande stratège.
C'est formidable.
Non, mais objectivement,
pardon. Pour une fois que Goupil dit du bien de Le Pen en tant qu'analyste, grande stratège, du coup, le jeune va en dire du mal.
Mais je veux dire pourquoi.
Parce que cette histoire soutient plus la position Buisson, Zemmour et puis Marion Maréchal.
Encore une fois, sur les questions stratégiques, je sais pas tellement où je me situe. Mais en revanche, par contre, là où vous avez tort, c'est qu'aujourd'hui, on parle de comment Marine Le Pen essaie d'aspirer la droite, etc., etc. Au contraire, depuis que Marine Le Pen est présidente du Front National, du Rassemblement National, enfin depuis 2011, en fait, elle n'a eu de cesse que d'écarter les électorats. C'est vers Macron qui sont partis les électeurs de droite, pas vers Marine Le Pen, ou en tout cas, il y en a plus qui sont partis chez Macron que chez Marine Le Pen. Ensuite, les ralliements de Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, on parle, je veux dire, je n'ai rien contre eux, au contraire, je les trouve plutôt sympathiques, etc. Je les ai bien connus quand ils étaient à droite. On parle de gens qui n'avaient plus aucun mandat et qui devaient se chercher un dernier mandat européen pour revenir sur la scène où ils restaient dans le cas de Mariani. Bon, bah, elle leur a donné un poste.
Attendez. De toute façon, on aura l'occasion de revenir et de reprendre, hein, parce que c'est quand même, on est en train de tirer des plans sur la comète. Une chose est certaine, c'est que nous vivons dans un monde nouveau dans lequel ce qui semblait impossible est devenu possible. La preuve, dans quelques instants.
Comme chaque samedi, vous êtes avec Olivier Duhamel pour Mediapolis. Et aujourd'hui, jusqu'à 11h, vous recevez Olivier Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Romain Goupil, cinéaste et chroniqueur.
Et comme chaque samedi, Alice Baudry, directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, a repéré dans les médias internationaux quelque chose pour Mediapolis et qui prouve bien que tout est possible, même ce qui semblait insensé. Le New York Times d'aujourd'hui, d'hier matin, vendredi, raconte comment Trump a arrêté sa frappe sur l'Iran et qu'il l'a expliqué par une série de tweets. Il a déclaré que l'armée américaine avait été armée et chargée en vue d'une frappe contre l'Iran jeudi soir, mais qu'il l'a interrompue 10 minutes avant, lorsqu'un général lui avait annoncé que 150 personnes allaient probablement mourir de l'attaque. Juste après 9h du matin, le président a indiqué dans une série de tweets qu'il avait préparé des représailles sur 3 sites à la suite du drone américain abattu, selon lui, par les Iraniens. Et d'ailleurs, ça n'est guère contesté. Mais qu'il n'était pas pressé. Que la mort de 150 Iraniens ne serait pas proportionnée. La décision du président d'interdire la frappe va en faveur d'une pression accrue sur l'Iran par des sanctions, va dans le sens des conseils qu'il a reçus de certains de ses principaux conseillers sur l'efficacité avec laquelle il empêche l'Iran d'avoir accès aux réseaux financiers du monde. Lors des débats sur les frappes, dans la salle des négociations jeudi, explique toujours le New York Times, le secrétaire d'État Mike Pompeo a affirmé que les sanctions avaient un effet puissant en réduisant les ventes de pétrole de l'Iran. Les tweets de vendredi laissent entendre que les arguments de M. Pompeo auraient pu peser sur sa décision. Mais quand même, un président qui, d'une part, avoue même se vantent d'avoir déclenché des opérations militaires, mais de les avoir arrêtées in extremis. Et deuxièmement, qui fait ça par tweet, c'est-à-dire on a l'impression d'être dans une série à l'imagination débridée. Geoffroy Lejeune.
C'est vertigineux, en effet, c'est très nouveau, quoi. Mais après, c'est son mode de communication depuis toujours, et c'est comme ça qu'il a gagné, c'est comme ça qu'il gouverne, et a priori, ça lui réussit plutôt bien, Donald Trump, donc il ne faut pas être plus surpris que ça. Maintenant, moi, ce que je tire comme conclusion de cette affaire, c'est, premièrement, il a de la suite dans les idées, c'est-à-dire que quand il a quand même décidé de se cogner l'Iran, pour le dire...
Là, c'est original, la suite dans les idées, déclencher les opérations militaires
non, mais ce que je veux dire,
et les arrêter 10 minutes avant l'exécution, c'est une forme bizarre de suite dans les idées.
Justement, je ne trouve pas du tout ça si incohérent que ça, non. C'est-à-dire que il a pris la décision de le faire, c'est une décision gravissime, je veux dire, voilà, ça déclencher une guerre, et il est capable de changer d'avis, ce qui veut dire qu'il est moins fou que prévu, en fait. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation, sachant que, si vous voulez, comment dire, à mon avis, il va rester cohérent sur la question de l'Iran, c'est-à-dire qu'il continuera sa guerre, elle est économique pour l'instant, et que s'il a besoin un jour de, frapper, il le fera aussi.
Robin Goupil ?
Oui, là, sur le, on oublie l'enjeu, peut-être que c'est qu'une marionnette sinistre, un espèce de docteur Folamour, là, l'histoire du tweet de « j'envoie des avions », je ne suis même pas sûr que les avions aient décollé. Je crois qu'ils sont en train de nous faire une mise en scène absurde en disant « attention, retenez-moi, je vais faire un malheur ». Il dit « j'allais frapper sur... »
Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire croire aujourd'hui que des avions ont décollé alors qu'ils n'ont pas décollé.
D'accord, admettons qu'ils aient décollé, il les fait revenir en arrière et il dit comme très grand... chef de guerre, je voulais frapper trois cibles. Mais je me suis aperçu trois tweets plus tard que ça allait faire. J'ai demandé aux généraux, ça allait faire 150 morts. Alors, je déclenche une guerre, mais il ne doit pas y avoir de morts et ça doit être proportionné. Mais vous... Et il rajoute un autre tweet en disant, mais s'il y avait eu un pilote dans l'avion de reconnaissance, alors là, j'aurais déclenché la guerre. C'est absurde de nous faire, de nous rendre témoins de l'ordre de la terre entière, des imbécilités de réflexion d'un mec qui n'a qu'un seul but, c'est de dire « je sors des accords » qui étaient des accords où on essaye tant bien que mal de ralentir ou d'arrêter le nucléaire iranien, parce que là, c'est, ça
mais
sera...
Moi, excusez-moi, mais sur le point de vue médiapolitique, moi je pense que c'est peut-être une imbécilité pour Romain Goupil, c'est peut-être une imbécilité pour le Washington Post, c'est peut-être une imbécilité pour l'intelligentsia de la côte Est ou de la côte Ouest, mais je ne suis pas du tout certain que ce soit une imbécilité pour l'électeur profond qui trouve que Donald Trump, dans le fond, a le courage et l'empathie de lui expliquer, de lui s'adresser directement à lui, de lui dire ce qu'il fait, et d'autre part, de montrer que, il peut être un homme de guerre, et ça c'est important de montrer qu'on peut être un homme de guerre quand on est chef de la plus grande puissance du monde, mais deux, qui ne veut pas la guerre, parce qu'il s'est quand même fait élire sur le fait qu'on ne ferait plus la guerre. Et que donc ce qui nous paraît complètement starbe, enfin complètement insensé, un président qui fait une succession de tweets comme ça, en vérité... Dans la nouvelle politique, c'est très talentueux, en tout cas, et c'est pas forcément imbécile.
Olivier, ce que je disais, c'est que, donc, c'est parce que là, vous avez coupé, je dis, soit c'est un truc imbécile, soit c'est quelque chose de très pensé qui est lié à la date du 7 juillet. Le 7 juillet, il a dit « plus aucune goutte de pétrole iranien n'alimentera le reste du monde ». Et le 7 juillet, les Iraniens ont dit, par la voix de leurs représentants diplomatiques, « nous augmenterons maintenant les 300 tonnes qu'on a, on va remettre le réacteur d'eau lourde d'Arak en place pour faire de l'uranium enrichi ». Pas les 300 tonnes qui sont autorisées avec de peu enrichi, de l'uranium enrichi. C'est-à-dire, on avance maintenant, à partir du 7 juillet, si vous empêchez, nous, on fait le nucléaire iranien. Et là, du coup, ça se joue de maintenant au 7 juillet. Qu'est-ce qui va se passer avec le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce qui va se passer avec les menaces? Qu'est-ce qui va se passer avec les avions? Il y a effectivement une tension qui est en train de monter par rapport à cette région du monde, avec des gens qui ont des intérêts... tout à fait à casser l'Iran, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit Israël, que ce soit
Bolton. Je vais tenter de commenter la manière de faire que je ne trouvais pas forcément aussi idiote qu'on a tendance à le dire très vite. Merci à tous les deux. Et à la fin, pour notre chanson, puisqu'il y a toujours une chanson, je l'ai mise sur les paroles pour faire plaisir à Romain Goupil et sur la musique pour faire plaisir à Geoffroy Lejeune. C'est une chanson de 1986, donc vous étiez à peine né. Même pas né.
En 88.
88, donc vous étiez à moins 2. Une chanson de Bernard Lavilliers qui s'appelle Noir et Blanc.
De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Noir et blanc, et pendant que la chanson passait, nos invités sont moins noirs et blancs que certains d'entre vous ne pourraient le croire, puisque Geoffroy Lejeune disait qu'il aimait beaucoup Lavilliers et Romain Goupil pas du tout. Donc vous voyez, les choses sont parfois plus compliquées. Merci à tous, merci à nos invités, merci à Jean-Luc Arblade et à Paul Lassène pour la réalisation et la préparation de cette émission.